Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce samedi 21 mai. Une première ministre en campagne, Elisabeth Borne, ce matin dans le Calvados où elle est candidate aux élections législatives. Avant les commerçants, cet après-midi, rencontre avec les agriculteurs. Ce matin, Jacques Seret est sur place pour Europe 1. Première sortie au lendemain de la nomination de son gouvernement, 14 hommes et 14 femmes. Un nouvel entrant qui fait beaucoup parler de lui, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, l'historien Pap Ndiaye. Et deux dossiers prioritaires, le pouvoir d'achat, c'est ce que vient de rappeler Bruno Le Maire, mais également l'écologie, l'ex-ministre de l'Environnement, d'Alain Juppé. Corinne Lepage sera ma première invitée dans un instant. Un premier cas confirmé en France de variole du singe détecté en Île-de-France précisément. Quels sont les symptômes? Pourquoi ce virus inquiète les autorités sanitaires en Europe? Première réponse dans Europe Midi. Le sport avec l'attente. Mbappé va-t-il rester à Paris ou partir à Madrid? Réponse dans les toutes prochaines heures. En attendant, c'est la dernière journée de Ligue 1. Avec notamment le choc OM Strasbourg. Dans ce journal, les enjeux de cette dernière journée. Et puis gros plan sur le groupe Indochine, 40 ans de carrière. Et un show immense ce soir avec une scène centrale et un écran ultra géant. On va en parler avec Jean-Éric Perrin, biographe du groupe de Nicolas Serkis. Mais avant de développer ces titres, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Eh bien, très belle journée estivale avec de très fortes chaleurs sur la moitié sud. 36 annoncés à Cahors et Albi par Météo France. Température qui grimpe encore davantage demain.
La météo complète bien sûr juste avant 13h. Alors c'était la méthode de Jacques Chirac pour faire campagne et c'est devenu, pardonnez-moi, une tradition pour les politiques, tâter le cul des vaches. Eh bien, la nouvelle première ministre est depuis ce matin dans le Calvados où elle est candidate dans la 6e circonscription. Jacques Seret, vous êtes sur place après l'annonce de son équipe hier. C'est un week-end de campagne, un week-end de proximité on va dire.
Oui, absolument. Elisabeth Borne visite en ce moment une ferme laitière du bocage normand, mais avec son nouveau statut de première ministre, évidemment, ça ne passe pas inaperçu.
Désolé, on est un peu nombreux là.
Oui, je vois ça. On va faire une petite visite de la ferme.
Oui, volontiers.
Donc voilà, je m'appelle Olivier Chaventré, j'ai 42 ans. Je me suis installé en juillet 2005 sur l'exploitation familiale des parents.
Une exploitation qui s'étend sur une centaine d'hectares et Elisabeth Borne, pour qui c'est la première campagne, tente d'engager la conversation.
Celui-là, il est né il y a 2 jours.
Ouais. D'accord.
C'est tout mignon.
Wow. T'as l'habitude, quoi, avec les trucs comme ça.
Ils sont petits, ils sont gentils, normalement.
Ah bah oui, mais même quand ils sont grands, non?
Bah,
ouais, il faut faire un peu plus attention, là.
Ouais. Quand ils sont
oui, d'accord, ok.
Et ce n'est pas forcément inné d'être devant les petits veaux pour cette polytechnicienne qui rappelle ses origines normandes pour justifier sa candidature ici.
Je suis, ma famille est originaire du Calvados, un peu plus à l'est. C'est un territoire auquel je suis attaché. Je viens ici autant que je peux.
Mais est-ce que les législatives pourraient remettre en cause son poste à Matignon? Sur ce point, elle fait diversion.
Je vous remercie de cette question très originale, mais vous voyez, je me mets dans la logique de cette campagne dans laquelle je m'engage autant que je peux, avec l'objectif de gagner.
Et pour gagner, elle va battre la campagne aujourd'hui et demain. Elle ira cet après-midi à la rencontre des commerçants du centre-ville de Villers-Bocage.
Merci Jacques. Jacques Seret dans le Calvados pour Europe 1. Il faut vous donner bien sûr les autres candidats de cette 6e circonscription du Calvados. Noé Gauchard pour la France Insoumise, Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement National, François Hormin, Linda Lahalle et Mickaël Guettier pour la droite souverainiste. Au travail donc, c'est le titre en une ce matin du Parisien aujourd'hui en France après l'annonce du gouvernement hier en fin d'après-midi avec deux priorités, l'écologie, on va en parler dans un instant, mais surtout le pouvoir d'achat. Bonjour Guillaume Dominguez.
Bonjour.
Et avec une confirmation.
Oui, celle d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Elisabeth Borne a confirmé qu'il sera d'ailleurs le premier texte étudié par la nouvelle Assemblée nationale en juillet. Un projet très attendu, construit autour de la lutte contre la hausse des prix et l'augmentation des aides de l'État. Une sorte de « en même temps » dans lequel le gouvernement veut maintenir le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, la réduction des prix du carburant et mettre en place un chèque alimentation pour les foyers les plus modérés. Elisabeth Borne a également parlé d'une possible revalorisation des retraites et des minima sociaux avant la fin de l'année et l'augmentation de la prime Macron sur le pouvoir d'achat. Des mesures encore loin des réalités pour Jean-Yves Manot, président de l'association des consommateurs CLCV. Il était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce matin.
Le problème de fond, c'est le niveau des revenus qui est extrêmement faible par rapport aux dépenses contraintes. Logement, assurance, carburant, la mutuelle, etc. Et dès aujourd'hui, le premier poste qu'on arbitre, c'est la composition de son frigo. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au seuil d'avoir des impayés potentiels parce qu'il faut arbitrer.
Des impayés qui se répercuteraient avant tout sur le loyer, justement. Parmi les grands chantiers en discussion sur ce nouveau projet de loi, les partenaires sociaux souhaitent mettre en place le gel des loyers pour les ménages.
Guillaume Dominguez, le pouvoir d'achat priorité du nouveau gouvernement, c'est ce que vient de rappeler Bruno Le Maire qui recevra dès lundi, a-t-il dit, les acteurs économiques pour évoquer les solutions pour mieux protéger les Français. Autre priorité donc, l'écologie avec deux ministères dédiés, la transition écologique et la transition énergétique. Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour.
Ancienne ministre de l'Environnement d'Alain Juppé, présidente de CAP 21. Deux techniciennes, en l'occurrence mesdames de Montchalin et Pannier-Runacher, pour ce dossier prioritaire. C'est un bon signal pour vous ?
Bof. je dirais que j'attendrai les actes. Je ne vais pas faire de procès d'intention, c'est stupide. Mais disons que ce sont vraiment des techniciennes qui connaissent pas particulièrement le sujet. Alors peut-être Agnès Pannier-Runacher, qui a été à l'industrie, a vu une partie des questions énergétiques, ça c'est possible, mais Amélie de Montchalin n'y connaît que quick.
Bon, en même temps, Nicolas Hulot connaissait le sujet, et ça n'a pas fait de miracle. Hein.
J'entends bien, donc c'est pour ça que je reste réservée, on verra bien. Je pense que la personne la plus importante, ce n'est pas les deux personnes que vous venez de citer, c'est Monsieur Payon, qui va diriger à Matignon tout le pôle énergie, industrie,
justement,
agriculture,
parce que cette transition écologique va être directement rattachée à Matignon. Ça va changer quoi ? Ça permet une autonomie par rapport à Bercy, une autonomie, on va dire, financière ?
Alors, un Premier ministre, ça peut imposer des choix. Deuxièmement, ça permet une vision transverse. Moi, si vous voulez, ce qui m'a toujours gênée, c'est l'incohérence. C'est-à-dire que le ministère de l'écologie fait un certain nombre de choses et puis les autres ministères font exactement le contraire. Ça va pas. Donc, la planification, elle doit précisément permettre d'assurer la cohérence entre toutes les actions de l'État. Ça, c'est essentiel et c'est à Matignon que ça se fait. Ça s'appelle des bleus. C'est des arbitrages.
Ouais. Corinne Lepage, dès hier soir sur TF1, Elisabeth Borne a promis l'accès aux voitures électriques en location longue durée pour seulement 100 euros par mois. Quelles sont les priorités en matière d'écologie ? Elle doit annoncer quoi et vite ?
Bon, écoutez, moi, ce qui me semble prioritaire, c'est le développement massif du renouvelable. On est dans une crise de production électrique du fait de nos problèmes sur nos centrales nucléaires. Donc, quoi qu'on veuille faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on a un problème immédiat. On fait comment l'année prochaine pour avoir de l'électricité ? Ce qui se fait le plus rapidement possible, c'est les toitures solaires.
Ouais.
Ça peut se faire très vite. L'industrie du solaire dit qu'elle est capable de réaliser l'équivalent d'un réacteur nucléaire tous les ans. Eh bien, faites-le. Allez-y. Enfin, moi, je serai aux affaires, c'est ça que je dirais. Allez-y. Donc, on essaye de libérer tous les freins qui aujourd'hui gêne le développement du solaire. L'éolien en mer, c'est parti, on sait que ça pose un certain nombre de problèmes, mais il n'y a pas d'énergie parfaite. Hein. Et développer ce qu'on appelle l'autoconsommation collective et l'autoproduction collective, individuelle et collective, parce que ça permettra aux gens d'avoir accès à une électricité immédiate et moins chère.
Bien sûr.
Donc c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Le deuxième grand sujet, c'est l'alimentation. C'est les pesticides, les rapports s'accumulent les uns après les autres. On parle maintenant, vous avez peut-être vu, d'un GIEC de la chimie. On ne peut pas continuer à s'empoisonner comme on le fait actuellement. Il faut vraiment changer le modèle.
En un mot, Madame Lepage, vous n'avez pas été contactée pour être ministre ?
Pas du tout, mais je dirais que je n'ai rien fait pour donner envie qu'on me contacte et je suis partie sur autre chose maintenant.
Mais dites-moi.
Je trouve que c'est très bien que des jeunes se mettent au travail.
Quel avenir pour l'écologie politique entre Europe Écologie Les Verts, finalement tous ces ministres techniciens qui se mettent à fond sur l'écologie ?
C'est pas parce qu'ils vont faire de l'écologie technicienne que la conception même de l'écologie politique va changer. Moi, je travaille actuellement à un regroupement de tous les mouvements écologistes qui ne se retrouvent pas du tout dans l'alliance avec LFI, et ouais. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Et nous ferons une conférence de presse mardi à 11h, précisément pour vous expliquer comment nous voyons les choses. Et il y aura un peu plus de 400 candidats écologistes indépendants en France pour ces législatives, pour montrer qu'il y a une autre écologie que ELV mariée à LFI.
Ça sera donc mardi prochain. À suivre donc Corinne Lepage, la présidente de CAP21 ce midi sur Europe 1. Un grand merci à vous, madame. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Encore un mot de ce nouveau casting ministériel. Il y a cette nomination qui crée la surprise et qui fait beaucoup parler, celle de Pape Ndiaye, à la tête du ministère de l'Éducation nationale. L'historien franco-sénégalais remplace donc Jean-Michel Blanquer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout les oppose. Arthur Delaborde.
Un choix de rupture de la part d'Emmanuel Macron, un changement radical qui se profile par rapport à la politique menée pendant 5 ans. Jean-Michel Blanquer a en effet dénoncé les ravages de l'islamo-gauchisme à l'université. Il s'est aussi montré très engagé dans la lutte contre le communautarisme et le wokisme à l'école. Un positionnement à l'exact opposé de Pape Ndiaye, qui fut par exemple l'un des premiers chercheurs français à avoir développé une pensée proche du mouvement woke importé des États-Unis. Cette différence notable sur le plan idéologique n'a pas été évoquée lors de la passation de pouvoir rue de Grenelle. Pape Ndiaye a prononcé un discours minimaliste, voire prudent, mettant notamment en avant son parcours.
Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier.
Jean-Michel Blanquer a de son côté dressé le bilan de son action, insistant aussi sur sa vision de la République et invitant son successeur à la vigilance sur les valeurs en évoquant l'assassinat de Samuel Paty.
Samuel Paty nous oblige à une vigilance sur nos valeurs. Et cette vigilance sur nos valeurs, évidemment, vous en êtes maintenant le garant.
Jean-Michel Blanquer, qui après cette prise de parole a quitté son ministère sous les applaudissements de ses collaborateurs.
Voilà, Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Allez, restez avec nous. Premier arrêt dans Europe Midi Weekend. Dans un instant, la variole du singe. Premier cas en Ile-de-France. Faut-il s'en inquiéter? Et puis, on va vous parler de L'Ombre, un podcast Europe 1 inédit sur l'affaire Estelle Mouzin. Et puis, bien sûr, tous les sports avec l'attente pour Mbappé et la dernière journée de Ligue 1. Bon appétit, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
12h43, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Passation de pouvoir ce matin au ministère de la Santé entre Olivier Véran et la nouvelle ministre Brigitte Bourguignon. C'est elle qui va devoir prendre en main ce dossier de la variole du singe. Arthur Pereira, un premier cas a été détecté hier en Ile-de-France.
Oui, un homme de 29 ans, il n'avait pourtant pas voyagé dans l'un des pays où le virus circule. Ce que l'on sait de ce cousin de la variole, c'est qu'il se transmet par contact physique de l'animal à l'homme. L'infection se symbolise par de la fièvre, des maux de tête et par l'apparition de ganglions, par de gros boutons remplis d'eau sur la paume des mains, sur le visage et au niveau des parties génitales. Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris, tient à rassurer. Pour le spécialiste des maladies tropicales, c'est un virus bénin.
La létalité, elle est estimée entre 1 et 10%, peut-être plutôt 3-4%. On n'est pas du tout dans une épidémie avec un potentiel de nombreux décès. On n'est plus dans une épidémie qui pourrait être un peu spectaculaire et avec un certain nombre de gens touchés, mais pas un risque létal très élevé. Dans les derniers cas qui sont survenus aux États-Unis ou en Europe dans ces dernières années, il y a eu 0 décès.
En cas de contamination, il est recommandé de s'isoler 21 jours pour éviter la transmission et protéger les lésions cutanées. Il existe aussi des traitements, le Tecovirimat notamment. Les personnes cas contact, elles peuvent recevoir un vaccin. Pour le moment, le risque d'une épidémie dans le monde reste écarté.
Merci Arthur, Arthur Pereira.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
On a souhaité vous en parler ce midi. C'est un podcast à ne pas rater, à écouter surtout quand on a le temps le week-end. Podcast Europe 1 sur Spotify. Son titre, L'Ombre. Il s'agit de 5 épisodes qui reviennent sur l'affaire Estelle Mouzin, l'affaire au-dessus de laquelle a plané pendant des années l'ombre du tueur en série Michel Fourniret. Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Journaliste, voix bien connue des auditeurs d'Europe 1 pendant de nombreuses années. C'est vous, Chloé, qui signez ce podcast inédit. Parmi les moments très forts de ce podcast, il y a ce jour que vous racontez dans l'épisode numéro 2 où Éric Mouzin est convoqué par la nouvelle juge d'instruction en charge du dossier. C'est la 8e quand même. Elle a tout repris à zéro, en gros, et elle a demandé de nouvelles expertises à un grand spécialiste de l'ADN, notamment sur une trace retrouvée sur le matelas de Michel Fourniret. Et voilà ce qu'apprend Éric Mouzin, on l'écoute.
Là, on a les explications pendant 3 quarts d'heure du professeur qui dit que c'est bon, mais qu'en même temps il manque un bout, mais qu'en gros, il y a l'ADN d'Estelle qui est sur le fameux matelas. Et donc, ça confirme l'implication de Michel Fourniret.
Voilà, Chloé Triomphe. Pourquoi ce moment-là, cette réunion-là, c'est un point de bascule déterminant dans l'affaire ?
Eh bien parce que c'est vrai que pendant des années, il a fallu trouver le lien concret, tangible, une preuve matérielle, si vous voulez, de la présence d'Estelle Mouzin dans les affaires, dans les lieux de vie de Michel Fourniret. Ce matelas qui était dans la maison de la sœur de Michel Fourniret et dont il a hérité à sa mort, et il avait les clés, il y allait régulièrement. Eh bien ce matelas avait été expertisé une première fois, mais avec les progrès de la science, eh bien, le professeur d'Outremepuiche l'a analysé une seconde fois avec les progrès qu'avait pu faire l'ADN. Et effectivement, il est parvenu à déterminer la présence d'un ADN partiel. Alors certes, ce n'est pas un ADN complet, mais avec un suffisamment de pourcentage, en fait, si vous voulez, pour conclure qu'il y a une très forte probabilité que ce soit bien celui d'Estelle. Et donc qu'Estelle ait été sur ce matelas dans la maison de Ville-sur-Lume, c'est dans les Ardennes. Et tout cela corroboré avec d'autres preuves faisait un faisceau d'indices suffisamment important pour donner une quasi-certitude à la juge.
J'aurais plein de questions bien sûr à vous poser. Tout au long du podcast, vous posez cette question, aurait-on pu connaître la vérité plus tôt ? Je vous la pose donc à mon tour dans cette affaire Estelle Mouzin, est-ce qu'on aurait pu connaître la vérité plus tôt ?
Je serais évidemment tentée de vous dire oui, il y a eu plusieurs moments dans l'enquête. Hein. On rappelle que ça fait quand même 19 ans que Estelle Mouzin a disparu. Il y a eu différents témoignages, notamment celui d'une codétenue de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, qui avait reçu, a-t-elle dit, des confidences de Monique Olivier. Il y a eu cette histoire de l'alibi de Michel Fourniret le soir de la disparition d'Estelle, qui a tenu durant des années. Cet alibi, il reposait juste sur un coup de téléphone qu'aurait passé Michel Fourniret depuis son domicile des Ardennes et qui donc de facto l'aurait empêché de se retrouver en Seine-et-Marne au même moment. Eh bien, en fait, quand on a posé la question à Monique Olivier des années plus tard, elle a dit « Ah ben non, en fait, c'est moi qui ai passé le coup de fil, mais que se serait-il passé si on l'avait posé la question plus tôt ? Que se serait-il passé si finalement la co-détenue Monique Olivier n'avait pas nié avoir posé avoir confié des choses à cette co-détenue. Bon, c'est toujours difficile de refaire l'histoire. On veut incriminer personne, mais effectivement, on a il y a des raisons quand même de se poser cette question, et c'est pour ça que je l'ai choisi comme fil conducteur de ce podcast.
L'Ombre, podcast européen sur Spotify que vous avez signé à écouter bien sûr ce week-end. Merci à vous, Chloé Triomphe. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
Merci. Allez, dans un instant, le sport avec la dernière journée déterminante de la Ligue 1 et puis la culture avec les 40 ans du groupe Indochine. Et puis nous serons à Cannes également avec Laurie Choléva. Merci d'écouter Europe 1, à tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Thierry Dagiral.
1h10 passé, la dernière partie de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. C'était la dernière séance chantée Eddy Mitchell. Ben, c'est un peu ça ce soir. Dernière journée de Ligue 1. Et il y a encore du suspense à tous les étages. Les principaux enjeux, Jean-François Pérez.
Et c'est évidemment dans le bas du tableau que la soirée s'annonce irrespirable. Bordeaux n'est plus maître de son destin et promis à la Ligue 2. Mais qui accompagnera les Girondins à l'échelon inférieur ? Peut-être un autre monument du foot français. L'AS Saint-Etienne, qui est à égalité avec Metz. Les Verts, en déplacement à Nantes, doivent obtenir un meilleur résultat que les Messins qui se rendent à Paris pour ce qui sera peut-être le dernier match de Kylian Mbappé au PSG. Au mieux, Saint-Etienne obtiendra un sursis, une place de barragiste face à Auxerre. Pour le reste, la lutte sera européenne. Opération Ligue des Champions pour Monaco et Marseille. Les Monégasques se rendent à Lens. L'OM accueille Strasbourg. Deux clubs qui visent eux aussi des strapontins européens. Mais ils ne sont pas les seuls. On suivra également Rennes qui jouera à Lille et Nice à Reims. Relégation, Ligue Europa ou Ligue des Champions, le suspense durera sans doute jusqu'à la dernière minute, sauf pour le PSG qui fêtera en grande pompe au Parc des Princes son 10e titre de champion de France.
Jean-François Pérez, le chef des sports d'Europe 1, et il y a l'intense incertitude. Mbappé va-t-il rester à Paris, partir à Madrid ? Quand va-t-il le dire ? Où va-t-il le dire ? C'est imminent, mais le secret est toujours très bien gardé. Grégory Schneider de Libération.
L'image qu'on a, c'est Mbappé dans une pièce avec les deux propositions. Il y a deux boîtes, il y a une boîte A, il y a une boîte B, et il va en ouvrir une, voilà. Il s'est débrouillé pour avoir deux propositions qui lui allaient. C'est une décision lourde quand même, et il doit la prendre. Donc on peut pas vraiment, par déduction, si vous voulez, dire oui, il y a quand même des choses autour qui semblent indiquer que ça se passe dans la tête d'un mec. Et là, c'est très difficile d'y rentrer. Les proches insistent sur le fait que Mbappé est autonome dans ses décisions. Le discours que les proches me tiennent, c'est « on n'en sait rien ». Il peut faire rentrer des choses dans le raisonnement dont on n'a pas idée. Donc c'est très très difficile de réfléchir à sa place.
Voilà, le journaliste Grégory Schneider, soirée spéciale bien sûr dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Et juste avant, le coup d'envoi des matchs, l'invité sera Gilles Moreton. C'est le président de la Fédération Française de Tennis. Bien sûr, avant le coup d'envoi, demain matin, de la quinzaine de Roland-Garros. À suivre sur Europe 1, radio officielle du tournoi.
Europe Midi Weekend.
Thierry Dagiral.
C'était il y a 40 ans. Le groupe Indochine fête ses 40 ans. 40 ans. Et c'est ce soir, au Stade de France, un groupe qui a cassé les codes de la scène musicale française. Bonjour Jean-Éric Perrin.
Bonjour. Alors, merci de m'accueillir.
Vous êtes un spécialiste, vous avez écrit plusieurs livres sur Indochine, ancien rédacteur en chef de Rolling Stone ou encore de The Best. Immense spectacle ce soir. Hein.
Toujours immense spectacle. Bah, la salle déjà l'indique. Au Stade de France, on ne veut pas juste arriver avec une petite guitare et chanter avec un écran au-dessus. Et c'est en plus une des spécificités du groupe Indochine de faire des spectacles qui sont à chaque fois extraordinaires, de technologie, de nouveautés, ils inventent des choses, ils vont chercher des choses qui se font, la pointe de la technologie pour construire des décors et faire des effets qui sont qui vont beaucoup plus loin qu'un simple groupe qui joue avec des lumières autour.
Depuis Canary Bay, il y a 40 ans, comment ce groupe, pourquoi ce groupe a traversé les années ?
Alors c'est évidemment un mystère, pourquoi un groupe dure 40 ans en continuant d'avancer, en ne capitalisant pas sur son passé, sur ses tubes, ce que Indochine fait de toute façon, puisque des tubes il y en a et un passé il y en a, mais à la différence de groupes comme les Rolling Stones par exemple, qui continuent d'être sur les scènes en jouant leurs titres des années 60 et qui ne font quasiment plus jamais d'albums, Indochine, eux, tous les 3 ou 4 ans, sortent un nouvel album et font une tournée autour de ce nouvel album, avec en plus, évidemment, parce que les spectacles durent 2 à 3 heures, avec en plus, évidemment, il faut faire plaisir aux gens, donc les tubes, l'aventurier, Canary Bay,
etc. Avec également des chansons qui ont pu choquer, en tout cas qui n'étaient pas encore dans l'air du temps, on va dire.
C'est une des marques aussi du groupe, c'est-à-dire il y a un véritable engagement qui dure depuis ces 40 ans, 41 ans même, puisqu'on est à 41 ans, autour de certains thèmes. Et un des thèmes, effectivement, qui est le plus défendu par une des causes les plus défendues par ce groupe, c'est la lutte contre l'homophobie et contre les réactions autour des pratiques sexuelles, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont librement consenties. Donc effectivement, il y a cette chanson qui s'appelle « Le troisième sexe » qui est sortie en 1985 ou 6 et qui, à l'époque, a fait, qui n'a pas scandale, mais en tout cas qui a remué un petit peu les choses et qui continue de le faire puisqu'on est 40 ans plus tard dans une situation où voilà, il y a des pays qui veulent interdire l'avortement, il y a des joueurs de football qui ne veulent pas mettre des maillots en hommage aux luttes contre le mal qu'on fait aux LGBT. Donc voilà, on est quand même dans une situation où les choses évoluent souvent en marche arrière.
Ouais,
les textes résonnent encore et le public se retrouve toujours dans ces textes.
Mais spectacle donc ce soir, avant une immense tournée. Grand merci à vous, Jean-Éric Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous et bonne journée. Au revoir.
Allez, dans une heure clap, votre magazine du cinéma, on va justement retrouver Laurie Choleva à Cannes. Et Laurie, vous nous parlez d'un film qui a fait sensation cette semaine.
Ah oui, c'est mon gros coup de cœur. Ça s'appelle Coupé, c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius. Ça a été présenté donc en ouverture du Festival de Cannes. C'est le remake d'un petit film japonais, un film étudiant qui s'appelait Ne coupez pas et qui avait été réalisé avec zéro budget, mais qui est absolument dément. Alors l'histoire, c'est celle d'un réalisateur un peu raté, blasé, résigné, joué par Romain Duris, qui se retrouve à réaliser un film de zombies à petit budget qui doit se faire en fait en un seul plan séquence, donc sans jamais couper la caméra.
Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, hey, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis les grands mecs.
C'est mon film. Tu me fais chier. Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con.
Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri au cinéma. Donc au casting, Romain Duris, je le disais, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield ou encore Grégory Gadebois. C'est une déclaration d'amour à toute l'industrie du cinéma, la façon dont on fabrique un film. Un film, c'est une affaire d'équipe et le film lui rend très bien hommage. Et en même temps, c'est une parodie à ces films de série Z, de zombies à profusion d'hémoglobine avec des filles qui hurlent dans tous les sens. Franchement, c'est très très fun.
Parfait. Au sommaire de Clap dans une heure, Laurie, depuis Cannes.
Oui, bah oui, j'étais obligée d'être présent sur la croisette pour un clap spécial où j'aurai le plaisir de recevoir Romain Duris justement pour revenir sur ce film Sensation Coupée. Je vais aussi parler à Anna Taouet qui vient à Cannes pour la première fois ou encore Léa Seydoux.
Merci Laurie, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Allez, la météo, Valérie Darmon, c'est fini les orages pour ce samedi.
Effectivement, excepté peut-être quelques-uns épars en Auvergne. Sinon, le soleil brille sans aucun partage de nouveau au nord de la Loire, où il fera 24 à 26 degrés cet après-midi. Au sud de la Loire, le beau temps pleinement estival se poursuit avec une chaleur étouffante avec 30 à 33 degrés. Là où il fait encore le plus chaud, c'est en Aquitaine. Les températures pourraient à nouveau atteindre 33 degrés à Bordeaux, jusqu'à 35 dans les Landes et aussi 36 à Cahors et Albi, 34 à Toulouse, 33 à Grenoble, 32 à Biarritz et Chambéry, 30 degrés à Clermont-Ferrand, 28 à Tours et Toulon, 27 à Vannes et Strasbourg, 26 en région parisienne, 23 à Évreux et enfin 17 à Cherbourg.
Merci Valérie Darmon, à tout de suite pour les toutes dernières informations.